Bonjour à tous, donc, j'ai l'honneur de démarrer cette superbe semaine, je suis ravie. Comme Grégory l'a dit, le brief était assez large puisque c'est le podcast Sa vie, son œuvre avec un état des lieux en 2022. Alors, à l'heure où le challenge le plus complexe pour un groupe est de continuer à capter l'attention de son user, de son consommateur, de son lecteur, et où la relation avec ce dernier doit s'inscrire dans une réflexion qui soit à la fois omnicanale et multiforme, le podcast et plus largement l'audio digital est devenu un vrai sujet. Alors, il n'y a rien de très nouveau depuis 2004, si ce n'est qu'aujourd'hui, tout est désormais fait pour que le plus grand nombre puisse apprécier ce format. Avant, ça prenait de la place sur le téléphone, c'était uniquement sur les Mac. L'UX était catastrophique, il n'y avait pas encore le Bluetooth dans les voitures et on n'avait pas de data, donc c'était compliqué pour monétiser. Maintenant, grâce à la rapidité des flux, on a aussi l'ultra-consommation du mobile. Tout ça, du coup, prend désormais forme. Et l'UX s'améliore, notamment grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on a de la data. À cela, on peut ajouter une dimension sociologique, puisque l'audio libère les yeux et les mains. Et dans un monde qui est saturé d'écran, on retrouve une liberté de concentration. Qu'est-ce qu'on entend par audio digital ? Alors, il y a forcément plusieurs formats. Il y a la radio digitale, le podcast replay, le podcast natif, les fonctionnalités qui sont présentes sur les assistants vocaux, le text-to-speech, et aujourd'hui, on parle même désormais de vidéo-to-speech. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un média vient challenger le précédent. Dans les années 90, avec l'arrivée d'Internet, on prédisait la mort du print. La même chose s'était passée avec l'arrivée de la radio au moment du lancement de la télévision. La bonne nouvelle, c'est qu'à date, aucun média n'a remplacé le précédent. Ce qui se passe, en fait, c'est que la consommation des médias a changé. C'est ce sur quoi il faut vraiment qu'on s'intéresse aujourd'hui. Et il est d'autant plus important, du coup, de garder une approche centrée sur le user. C'est vraiment un maillon supplémentaire dans l'expérience qu'on a avec son user, son consommateur. Pour qu'un marché de contenu vive, il faut que le contenu soit de qualité, il faut qu'il réponde à des usages, il faut qu'il anticipe des besoins et il faut qu'il aide aussi à aller séduire des nouvelles cibles. L'évolution du marché de l'audio. Alors, aux États-Unis, on observe que le marché commence à être mature, en tout cas dans l'usage. La consommation de l'audio digital est désormais stable à plus 1% de progression sur les deux formats. Il y a 2 Américains sur 3 qui consomment de l'audio digital, 1 Américain sur 3 du podcast. Néanmoins, la croissance publicitaire continue. Elle est drivée essentiellement par le marché du podcast, puisque l'ensemble du marché publicitaire audio digital est à plus 13%, et le marché publicitaire du podcast est plus 37%. On prévoit une croissance qui est projetée d'ici 2023 à 2,2 milliards de dollars. On a sur le marché américain les 4 plateformes qui sont donc les plus utilisées pour accéder à l'audio digital, qui sont Pandora, Spotify, Google Play et YouTube Music. Sur le marché UK, alors c'est vraiment le plus gros marché européen, puisqu'il fait 2 fois le marché allemand, l'Allemagne étant en 2e position. On observe que là aussi, le marché publicitaire du podcast drive le marché publicitaire global. On est à plus 43% et on a une projection à 76 millions d'euros qui est prévue pour d'ici 2023. La consommation hebdo est toujours en hausse, à plus 23%, et c'est encore plus fort auprès des jeunes cibles, les 15-34 ans, puisqu'on est à plus 28%. En France, la bonne nouvelle, c'est que tous les indicateurs sont au vert. On a 18 millions de Français qui écoutent des podcasts chaque mois. C'est plus 61% versus 2019. Et sur le plan du marché publicitaire, la croissance est de plus 58%. Alors en France, on n'a pas la distinction entre audio digital et podcast pour l'instant. Donc plus 58%, et on retrouve la même tendance dans le nombre des annonceurs qui font confiance du coup au podcast, plus 60%. Mis à part la barrière de la langue, il y a plusieurs points forts qui permettent de prédire que le marché européen pourrait avoir une hypercroissance. En effet, il y a des niveaux élevés de connectivité au digital. On a un engagement historique dans l'audio. L'usage se répand plus vite que la génération des revenus. Et on a adopté dès le début la programmatique qui simplifie l'usage. Le podcast, c'est avant tout un business international. Alors, on ne produit pas pour un marché, on produit pour une audience. On cherche avant tout une audience qui soit captive, qui soit engagée. Et ça, seule la barrière de la langue, du coup, peut être un frein. En plus, pour les plateformes qui sont présentes sur la plupart des marchés, il est aussi intéressant de pouvoir penser un lancement dans sa globalité. Le studio Wandery, en 2019, a voulu s'installer à l'international et ils ont recherché du coup des alliances locales. Prisma Media était leur partenaire sur le marché francophone et ils ont lancé en simultané l'un de leurs podcasts phares, c'était Dr Death, Dr la mort en français. Et du coup, Apple l'a mis dans ses recommandations dans les 7 marchés au même moment. Oui, on peut aussi se dire que la capacité à être internationale est aussi intéressante pour les marques annonceurs, pour qui la stratégie audio est un vrai sujet, mais qui parfois a besoin d'être pensée et pilotée aussi au niveau global. On a, côté Prisma, exporté donc notre podcast phare, Mourir moins con, qui est désormais aussi présent sur le marché allemand. Si on regarde ce qui se passe sur le marché français, donc comment est-ce que nous, on consomme les podcasts ? Ben, on peut se dire que c'est une pratique qui est désormais ancrée dans les habitudes des Français. Donc il y a un Français sur quatre qui consomme du podcast. Et c'est surpondéré parmi les CSP+, et les familles avec enfants. Et ce qui me semble intéressant, c'est de regarder la fréquence d'écoute des auditeurs. Donc pour 28%, c'est une consommation qui est quotidienne. Et pour 30%, c'est de 3 à 5 podcasts par semaine. Le profil type de l'auditeur de podcast français, il est plus jeune, il est plus urbain que la moyenne des Français. Il est particulièrement connecté, il est adepte du streaming, il est surabonné à des plateformes de SVOD, de musique, de presse. Donc effectivement, c'est vraiment un grand consommateur des médias. Le podcast, c'est le média de la mobilité. Ça permet une consommation à des moments où notre audience ne peut pas forcément s'intéresser à nos contenus. Donc c'est en cela où c'est important de l'envisager comme un maillon supplémentaire dans l'expérience de la marque. Et c'est surtout le média de l'engagement. On regarde, 50% considèrent que ça les accompagne pendant une activité qui demande peu d'attention. Pour 39%, ça occupe un temps mort. Et pour 38%, c'est une activité à part entière. Les auditeurs de podcasts, donc en écoutant ces formats, recherchent à s'ouvrir. Enfin, ils cherchent vraiment à s'ouvrir aux autres. Ils recherchent aussi une manière de renforcer les liens avec la famille. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on voit que c'est un moment de partage avec les siens. Ils considèrent que le podcast va leur permettre d'apprendre en profondeur, de faire également du multitasking, et c'est un moyen de gagner en bien-être. Alors le next step, c'est le besoin d'interaction qui se fait ressentir de la part des auditeurs de podcasts. L'audio ne se définit plus seulement comme un moyen de... L'audio ne se définit plus seulement par l'écoute, mais c'est aussi un moyen d'échanger. Et on voit du coup que le contrat de lecture, il peut évoluer vers un contrat de service. On a du coup un rôle à jouer avec les smart speakers. Ce n'est pas seulement une brique de rétention, ça permet aussi d'être un moyen de distribuer ces formats. Il y a plusieurs évolutions côté enceinte connectée qui sont à prendre en compte, comme notamment le Streamline Conversation. Amazon et Google travaillent sur l'interaction vocale avec les assistants vocaux, sans mentionner le nom, ce qui permettra du coup une expérience plus fluide. Il y a la compatibilité, donc c'est le développement d'appareils intermédiaires qui sont connectés via le Bluetooth et qui permettent d'interagir vocalement. L'expérience personnalisée, donc c'est tout le travail qui est réalisé sur la distinction des voix. Push notification, donc c'est les notifications vocales qui sont de plus en plus pertinentes et qui vont du coup permettre d'accroître l'engagement. Touch interaction, donc c'est la voix et l'image qui se fondent dans une seule expérience. Et bien sûr, la sécurité. Donc ça, c'est un focus qui est fait vraiment sur le user et sur le paiement vocal notamment. On prévoit qu'il y aura 8 milliards d'assistants vocaux qui seront utilisés d'ici 2023. L'audio social, donc, qui a démarré sur les plateformes comme Clubhouse, continue son essor, et notamment grâce au déploiement de Twitter Spaces, qui a même devancé Clubhouse sur les appareils Android. L'avantage de l'audio social, c'est que c'est produit en direct. Il n'y a pas d'écoute en différé, donc ça limite la portée, mais ça réduit la barrière à l'entrée. Le problème qui est soulevé par l'audio social, c'est la monétisation. puisque pour trouver un modèle économique durable, il va falloir qu'on développe l'usage. Or, cela renforce la nécessité de faire appel à de la modération pour permettre de garantir une sécurité aux annonceurs et de faire de cet environnement un environnement favorable. Ce qui concerne la monétisation, comme on peut le voir, le marché se structure et continue d'accélérer. La technologie drive l'usage et la monétisation. Et les plateformes de streaming et les GAFA suraccélèrent et continuent de prendre des parts de marché. On avait vu une situation semblable avec l'essor qu'a connu la vidéo avec l'arrivée de YouTube. Et c'est bien le pari que font les plateformes et les acteurs éditoriaux aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens de monétiser, même aussi hors solutions publicitaires. Et ça permet du coup une diversification des revenus. Donc côté publicité, on peut monétiser avec la programmatique, le sponsoring. En coproduction, c'est les marques blanches et aussi des associations de marques. On voit de plus en plus le direct to consumer, puisqu'il y a des études qui montrent qu'il y a une réelle willingness to pay pour ce format. Donc ça développe le content to commerce, les abonnements avec des modèles freemium, l'événementiel, puisque le podcast devient aussi une live experience. Et on peut également vendre la propriété intellectuelle, donc avec le licensing. Et c'est notamment ce que font des studios américains comme Gimlet, comme Wondery et d'autres, où ils vendent les droits de leurs podcasts phares qui sont désormais adaptés en série audiovisuelle. C'est une réelle opportunité pour les marques, puisque l'audio redonne de la force à la narration. Il y a des études qui montrent que les auditeurs de podcasts ont des rappels de marques absolument spectaculaires. Les marques qui proposent des podcasts sont perçues à 73% plus crédibles, 75% plus responsables, engagés. Un podcast de marque a déjà permis à 70% des auditeurs d'acheter le produit ou le service. 78% des auditeurs de podcasts seraient intéressés pour que les marques qu'ils aiment proposent leur propre format. Donc il y a une vraie appétence à connaître une marque à travers ce format et qui permet du coup de faire passer différents messages. La clé, c'est de développer une créativité spécifique pour ce média podcast en respectant l'auditeur avec un ton conversationnel qui soit inclusif. Alors, le sujet du jour, l'amplification. Alors, pour nous, on considère vraiment que la bataille de l'audio va se jouer sur 4 axes. La production, la distribution, la monétisation et bien sûr l'amplification. Comme vous l'avez compris, du développement de l'usage va générer le développement de l'inventaire et du coup, de là découlent les revenus. Côté Prisma Media, on s'appuie sur notre savoir-faire éditorial, nos expertises digitales et tout le travail qu'on réalise avec l'intelligence artificielle. On capitalise sur les cautions de nos marques, puisqu'il y a 41 millions de Français qui sont touchés chaque mois par les différentes marques du groupe. Et ça permet du coup de résoudre l'enjeu, en tout cas de participer à résoudre l'enjeu de la découvrabilité. L'audio permet une multidistribution. Donc on peut le diffuser sur les plateformes dédiées, les plateformes de streaming, les applications qui sont pré-embarquées ou dédiées au podcast. Mais on peut aussi le diffuser sur nos sites internet. Donc c'est ce que nous on fait également puisqu'on touche 9 millions de visiteurs uniques par jour. En conclusion, je pourrais dire que l'audio digital, ce n'est pas une solution à miracle. Ce n'est pas du tout une solution miracle, mais ça permet en tout cas d'être envisagé comme une occasion pour les producteurs de contenu de miser sur une stratégie de valeur en capitalisant sur un patrimoine éditorial et du coup de resserrer encore davantage la relation avec le user. Comme vous avez pu le voir, on est encore au début de cette histoire, mais on pense sincèrement que c'est une histoire qui mérite vraiment qu'on y prête une oreille attentive. Merci.
Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, super. Merci beaucoup, Gwendoline. Qui a une petite question à poser ? Je sais que c'est toujours dur de lever la main. Tiens, j'en ai une. Moi, j'en ai une. Bon, je vais commencer, alors je vais te la poser. Mais initialement, en fait, cet après-midi, on avait prévu de faire une demi-journée sur la recherche vocale. Parce que c'est un truc qu'on voit arriver depuis longtemps des États-Unis, mais qui finalement n'arrive pas tant que ça, quoi. En tout cas, on l'a vu au nombre des inscrits à cette conférence et à cette demi-journée qu'on avait prévue cet après-midi. Du coup, ma question, c'est, tu en as parlé en fait à un moment en disant que la recherche vocale était quelque chose qui allait de plus en plus s'accélérer, en tout cas des chiffres que tu présentais là. Est-ce que tu peux nous en dire quand même un petit peu plus? Je sais que c'est un sujet que tu as suivi et qui t'intéresse. Et voilà, cette réalité-là, elle est imminente en France ou finalement pas tant que ça?
Alors, pour l'instant, je pense qu'on est encore en phase de test. Forcément, les audiences digitales des sites Internet, elles sont très souvent développées grâce au SEO. Si demain, le SEO devient vocal, effectivement, on a une carte à jouer. C'est un sujet qu'on doit adresser. Donc, on commence à le travailler. Les interactions là, avec les assistants vocaux, c'est vrai que pour l'instant, le marché français n'est pas encore très mature. En revanche, que nous, on observe, puisqu'on a à la fois des fonctionnalités, comme le programme télé avec Télé Loisirs, des flash briefings avec MaxiScience et Capital notamment. On observe qu'il y a un vrai usage, notamment en Amérique du Nord, puisque sur le marché canadien, on a des audiences qui sont vraiment très fortes sur ce type de format. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, le jour où l'enceinte connectée devient un vrai sujet sur le marché français, il y aura une carte à jouer.
Ok, cool.
Après, ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est que ces fonctionnalités, elles vont être au cœur des foyers. Elles sont au sein des voitures. Enfin, maintenant, tout devient connecté. Donc, du coup, c'est sûr que...
Il y a un sujet d'équipement, en fait, qui va précéder l'usage, quoi. Donc, si l'équipement est là, derrière, a priori, ça décollera.
Oui, je pense aussi.
Ouais. Ok, cool. Super. Merci beaucoup, Gwendoline. On peut l'applaudir encore. Merci.